Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
Dès qu'on parle de stockage, il y a un risque sur l'intégrité, évidemment. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionne un disque dur. Un disque dur, c'est tête de lecture sur un support ferromagnétique qui est déposé sur des disques, enfin des plaques, des plateaux, hein, cherchez le terme. Quand j'écris la donnée, je l'écris jusqu'à ce que je puisse la relire. Donc, ma tête de lecture arrive, polarise, lit, ah, c'est pas bien polarisé, réécrit. Et ça le fait plein de fois. Dans notre domaine, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des bains moléculaires dans lesquels on va faire plein de molécules. Donc on n'en fait pas une, on en fait généralement de quelques dizaines à quelques millions. C'est plutôt aujourd'hui quelques millions, quelques dizaines. Et ensuite, on va extraire ce qui fonctionne. Et on a des marqueurs pour ça. Voilà. C'est juste des paradigmes qui sont différents, mais la quantité d'opérations à faire est similaire à ce qu'on trouve dans un disque dur.
Ok, très clair. Et sur les perspectives qui sont ouvertes par tout ça en termes d'utilisation, donc comme les disques durs, on aurait de la sauvegarde de données. Est-ce qu'il y a d'autres applications, par exemple de l'archivage, comme tu disais, long terme, vu qu'on a une durée de vie de l'ADN qui est je ne me rappelle plus exactement du terme que tu utilisais, mais paramétrable, c'est ça? Est-ce qu'on a d'autres applications de ce type-là que uniquement stocker de la donnée ou faire du calcul?
Je n'en vois pas. Enfin, c'est de l'informatique, hein. Donc, en informatique, on fait trois choses, je crois. On fait du stockage, on fait du calcul et on fait de la transmission d'informations à distance. Mais je vois pas d'autres applications. Après, si on parle de cas d'usage, on en a identifié une centaine à minima. Donc, il y en a vraiment beaucoup. J'en citais trois rapidement. Informatique quantique, 49 qubits. Vous voulez sauvegarder un état. 450 pétaoctets par état. 16 gigas sur votre ordinateur, 450 sur un quantique. Aujourd'hui, informatique classique, ouais, en deux sauvegardes d'état, vous remplissez le data center Azure du coin. Ça va aller un peu vite. Voiture autonome Tesla, 3 teraoctets de données produites par heure de conduite autonome. Ouais, imaginons 5 millions de véhicules en conduite autonome, une heure par jour.
Tout ça.
Ouais. Et puis, troisième, allez, j'ai envie d'envoyer les données de la Terre, de l'humanité sur Mars, parce que il y a Elon Musk qui a envie d'envoyer les données, hein. Enfin, s'y intéresse, hein, réellement, je vous le dis, je vous l'annonce. Comment on fait? On va pas embarquer des tonnes de matériel type bande magnétique ou disque dur, sachant que c'est fragile, c'est sensible au rayonnement qu'on trouve dans l'espace. L'ADN, c'est quand même pas mal, hein. C'est beaucoup moins sensible au rayonnement, voire pas du tout. Alors, c'est prouvé, en fait, que c'est pas très sensible à tout ça. Voilà. Quelques exemples, il y en a plein d'autres, hein. Je sais citer des exemples un peu saillants.
Ouais.
Il y a des choses très classiques.
Bien sûr. Il y en a un en particulier, toi, qui t'enthousiasme le plus de dire ça, on va répondre à quelque chose qui est vraiment fondamental pour un cas d'usage très spécifique dans le futur.
Je crois que ce que j'aimerais, c'est que nos données survivent à notre civilisation.
Ouais.
Parce qu'on est là pour une durée limitée. Et quand je dis notre civilisation va s'arrêter, je dis pas qu'il y aura pas de descendance à ce qu'on est aujourd'hui, mais il y aura quelque chose de différent. Et j'aimerais bien qu'on puisse transmettre ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on va produire encore pendant quelques siècles.
C'est une belle manière de voir les choses, je trouve. Ça me fait penser aux réflexions éthiques que vous pouvez avoir. Alors, tu nous expliquais que vous ne traitez pas de l'ADN vivant, justement, pour les raisons que tu nous détaillais tout à l'heure. Mais s'il y a tout de même des points qui sont intéressants à soulever sur ça, ou alors du fait d'autres technologies assez connexes ou d'autres entreprises qui manipulent ce type de choses.
Tout à fait. Alors, je fais un grand appel aux parties prenantes sur ces sujets, c'est-à-dire des sociétés comme la nôtre qui produisent de l'ADN à destination de l'informatique, des sociétés qui produisent de l'ADN à destination des medtech, bon, typiquement ceux qui produisent des oligos pour des tests PCR, les politiques, les chercheurs, à s'allier et à demander à nos parlementaires, chambre haute et basse, à nos États, d'offrir une réglementation. Je me tiens à la disposition des politiques et de toutes ces parties prenantes, chercheurs, les autres sociétés du domaine, j'ai déjà une proposition de réglementation en 7 points et j'aimerais l'avoir adoptée, pas trop tard, avant qu'il y ait un accident quelconque. Alors nous, il n'y aura pas d'accident chez nous parce que vraiment, on l'a en tête, on se l'est imposé dès le départ, avant de commencer quoi que ce soit. Mais on aimerait que tout le monde se l'impose.
Pour qu'on comprenne bien, quand tu parles d'accident, c'est quel type de choses ? Des dérives vraiment sur la manière dont on le synthétise, dont on l'utilise ?
Imaginez que je sois une société qui permette la production de petites molécules d'ADN, on va dire, à domicile. C'est-à-dire qu'il y a des laboratoires qui ont besoin d'imprimantes à ADN pour faire leurs recherches ou pour tout simplement produire des tests PCR, notamment dans les périodes épidémiques, très rapidement. C'est logique, on a besoin de les produire et sous 48 heures parce qu'il y a des variants. Si ces machines sont capables de produire n'importe quelle petite molécule d'ADN, ça veut dire que je suis capable de produire n'importe quoi et n'importe quoi qui pourrait être dangereux.
Okay.
On a des hypothèses sur ce qui s'est passé en Chine. Je pense que ça a été fait relativement manuellement. Si ça a été fait, je ne sais pas, je n'y connais rien.
Bien sûr.
Mais avec une imprimante, ça va aller beaucoup plus vite. Hein.
Ouais, donc il y a des...
Quelques semaines et un biohacker pourrait faire quelque chose de dégueulasse. Et on sait qu'il y a eu des tentatives de biohacking, mais il n'y avait pas le matériel pour le faire, donc ça n'a pas fonctionné. Pas bien. Là, avec du matériel qui coûte peut-être en dessous du million d'euros, un État qui est un peu... qui a envie de provoquer des choses un peu malsaines.
On se prend un peu pour Dieu, quoi, c'est ça ?
Bah oui, mais moi, j'aime pas ça, en fait. Je veux dire, je suis plutôt côté de la recherche. Et
si Dieu il y a, bien évidemment.
J'aimerais bien qu'on produise des choses qui peuvent aider notre civilisation à se perpétuer, à se soigner, à faire des choses intelligentes, que faire de la merde. Donc, légiférons, faisons de la réglementation. On l'a très bien fait avec RGPD, ça a été repris par les Américains. Faisons la même chose dans ce domaine-là. Donc j'appelle les politiques à me contacter. Je les ai déjà contactés par ailleurs, mais voyons-nous.
Aujourd'hui, vous avez fait déjà un collectif d'acteurs qui travaillent sur ces sujets-ci ou pas ?
Alors, c'est pas encore le cas, mais on commence. On a dû travailler, on est une jeune société quand même, hein, on a été créé en 2021. Donc on a commencé à travailler sur le sujet, à rassembler nos idées, à discuter déjà en interne. On n'était pas toujours d'accord parce que c'est des sujets tellement violents. Qu'il a fallu vraiment beaucoup réfléchir.
Ensuite, j'ai pas être interrogé. Hors du temps, non ?
Il faut pas être hors du temps. C'est un gros travail. En fait, c'est encore plus technique qu'un travail de science dure. On veut pas non plus attirer l'attention de manière malsaine. Si on fait les choses bien, mais on dit ADN vivant. Non, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. C'est très compliqué. Donc oui, on s'est rapproché de chercheurs éminents qui sont aujourd'hui à l'Académie des technologies, qui ont vu le travail qui a été fait sur d'autres réglementations, sur d'autres produits de recherche. Et donc, on veut capitaliser sur une bonne façon de communiquer sur ces sujets et apporter un premier travail intéressant que les politiques pourront comprendre.
Ouais, c'est un vrai enjeu. Et c'est aussi un vrai métier. C'est hyper complexe à faire. Mais j'en suis sûr que vous allez y arriver. Surtout que, y a des acteurs. On a des acteurs publics comme privés qui ont envie d'apprendre sur tout ça. Donc, normalement, ça devrait avancer. On a déjà vachement parlé des défis que vous avez. Est-ce qu'il y a un impact environnemental à tout ça ? Et est-ce que ça pourrait. Là, tu vois, quand tu me le pitches, je me dis, mais pour l'environnement, c'est une aubaine. Pour notre écosystème, c'est une aubaine. On va moins exploiter de minerais rares, on va exploiter moins d'énergie, moins d'espace. C'est parfait. Mais est-ce qu'il y a un revers de la médaille ou pas ?
Donc effectivement, au niveau de la consommation d'eau, de terres rares et d'émissions carbone, c'est juste génial. Voire, c'est carbone négatif. Ça, on est en train de travailler sur le sujet pour le montrer par une étude
qu'on
essaiera de publier.
Comment tu peux être carbone
négatif ? Parce qu'on consomme en fait du carbone pour faire de l'assemblage. Bon, malheureusement, je peux pas l'étayer par la science et j'aime pas trop faire ça. Donc, on est en train de travailler sur une étude LCA pour étayer ça proprement et publier.
Okay.
Donc, attendez-vous une publication dans un Nature ou autre sur ce sujet dans les mois, années qui viennent, c'est un sujet compliqué. Maintenant, je crois que... Moi, je crois au carpooling de solutions. C'est-à-dire, on a plusieurs problèmes et on a une solution qui résout tous les problèmes, enfin, tous les problèmes identifiés qu'on veut traiter en même temps, en une seule passe. Donc, je n'identifie pas à l'heure actuelle de problèmes que ça pourrait apporter. Mais je parle aussi sous le contrôle de Glenn, qui connaît aussi très bien le monde de la génétique. Est-ce que tu vois un problème que ça pourrait apporter? Nous, on n'identifie pas de problème. Aujourd'hui, pas de problème supplémentaire. On n'identifie que des corrections.
Ouais, je suis plutôt chimiste qui applique les chimies à la biologie, donc je n'ai pas une profonde connaissance dans le bio exactement.
Parce que la chimie, effectivement, pourrait apporter un problème qui est l'utilisation de solvants, donc de dérivés du pétrole. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on fait. On n'utilise pas du tout de dérivés du pétrole. Donc, on utilise du sucre.
Hein, ok.
C'est une
question intéressante. Faut réfléchir.
Je la pose, hein, mais parce qu'on, évidemment, on a nos financiers qui nous demandent en permanence, mais
quel problème tu résous?
Ouais.
On résout beaucoup de problèmes, on n'en apporte pas de nouveaux. Il y a des risques technologiques, il y a des risques éthiques, il y a toutes ces choses-là. En termes de problèmes.
Et au-delà des risques, est-ce que les technologies qui sont développées pour le stockage moléculaire ouvrent même la porte à de nouvelles technologies connexes, différentes, à partir de ce sur quoi vous travaillez au quotidien?
Oui, parce qu'en fait, on a déjà des clients qui voulaient tester notre solution. On n'a pas beaucoup, parce qu'on n'a pas le temps de traiter beaucoup de clients. On les a sélectionnés. On a ce problème de risque, qu'on a un gros pipe de clients et on l'a fait très peu rentrer dans notre circuit de production.
C'est plutôt un bon problème.
C'est juste génial. C'est la première fois que ça m'arrive. ces clients-là ne font pas des méga-données. Donc on est pas là pour faire du méga-stockage en data center. On travaille beaucoup sur la partie marquage. Ça, c'était pour un peu challenger notre équipe R&D et identifier les premiers problèmes. C'est génial, ça a bien marché. Ce faisant, on a découvert qu'on pouvait faire une sorte de... Alors j'ai employé un terme qui veut dire d'autres choses dans d'autres circonstances, mais on peut faire de la cryptobiologie. C'est-à-dire limiter la copie, l'accès en lecture à l'ADN qu'on peut produire. D'accord. À une certaine audience, si on le souhaite.
Ok. En gros, un peu comme sur un système d'exploitation avec les droits d'accès, c'est ça?
C'est exactement ça. Droits d'accès, lecture, chiffrement.
Écriture, modification.
Exactement. On peut faire beaucoup de choses. Et donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'épigénétique. Donc, si la génétique, c'est une suite de mots, l'épigénétique, c'est la ponctuation. Encore une fois, je tue des images qui sont des projections de la réalité. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en fait, on peut modifier les bases qu'on a associées les unes aux autres. Un premier élément, c'est qu'on peut les modifier de manière unitaire. Et deux bases A peuvent être très différentes. Et pourtant, quand je vais les lire, elles sembleront similaires. Mais en les lisant d'un peu plus près, elles ne seront pas tout à fait similaires. Et je prends en déterminer donc l'origine. Donc quand je veux marquer un produit, par exemple un emballage primaire de médicaments que je livrerai à une pharmacie sénégalaise, je peux réellement en connaître l'origine et dire non, mais là il y a une modification. Là vraiment, c'est parmi les couches de protection qu'on met aujourd'hui pour identifier, marquer un objet, ça peut être intéressant. D'autant plus qu'avec l'ADN, on peut marquer l'intérieur d'un objet, pas seulement sa surface. Je peux imaginer fabriquer des objets. Pendant la fabrication, j'intègre de l'ADN dedans.
C'est comme d'avoir un petit code barre, si je comprends bien, dans
exactement.
Ce qu'on produit lui-même.
Il y a une fameuse expérience qui a été menée dans un laboratoire de recherche, je crois que c'était en Suisse, par Robert Grass, qui a, avec une imprimante 3D, fabriqué un petit lapin. Et dans le lapin, il a mis de l'ADN. Il appelait ça le DNA of Things. Et cet ADN contenait le plan du lapin. Donc il était capable de manière... c'est une mise en abîme en fait de lui-même.
Il était vivant le lapin?
Ah, c'est un lapin en plastique.
Ah, okay.
C'est du plastique pour imprimante 3D.
Pas encore.
Non, mais je sais pas, tu vois, je me suis dit.
Non, on joue pas trop. On n'aime pas trop jouer avec le vivant.
Ouais, c'est dangereux.
Dans nos laboratoires de recherche, on se connaît tous. Hein.
Ouais.
On n'aime pas trop ça. C'est très éthique, un chercheur. Hein. Je vous le dis. Surtout, j'ai un chercheur
surtout quand tu as conscience des risques et à quel point on n'est pas encore. On connaît pas tant que ça, j'ai l'impression. On connaît la génétique, mais.
On la connaît bien.
Il reste quand même du chemin, non ?
On connaît bien la génétique, il reste du chemin. Ce qu'on connaît surtout mieux que la génétique, c'est les humains. Et on sait que la plupart des humains sont des gens très bien, doués de plein de bonté, avec beaucoup d'éthique. Mais malheureusement, il y en a quelques-uns. On ne peut pas leur faire confiance, donc il faut s'en méfier. Donc, bah, évidemment, c'est un peu un nivellement par le bas, mais il faut savoir se méfier de certains humains.
Mais juste pour finir sur ton exemple, et pour essayer de faire un parallèle, voir si j'ai bien compris, en fait, c'est un peu le même cas d'usage qu'on utilise, par exemple, avec la blockchain pour certifier que tel, enfin, pour, on va dire, marquer dans le fer, entre guillemets, certains objets numériques. Mais là, ce serait pour des objets physiques où on va, dans l'ADN, marquer, en fait, par exemple, des informations qui sont pas modifiables pour s'assurer certaines choses, c'est ça?
Oui, alors, la blockchain, ça fonctionne par une inscription notariale. Enfin, c'est vraiment, et puis tout le monde détient la base de données, donc tout le monde détient l'information. Donc, par consensus, on est capable de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Là, c'est différent. On n'a pas besoin d'être connecté. On n'a pas du tout besoin d'avoir une information disponible dans plein d'endroits.
On n'est pas en ligne.
On n'est pas en ligne. Donc, ça sert au marquage. Marquage principalement. On pourrait imaginer que ça puisse servir à l'authentification et puis on peut rajouter des données sur la chaîne logistique. On peut l'imaginer aussi. Nous, le marquage, c'est pas notre premier cas d'usage. On adore le faire parce qu'on a des clients qui nous font évoluer, qui nous font avancer. Notre cible réelle, c'est le data center. Et tout ce qu'on fait, c'est en direction du data center.
Tout à l'heure, tu nous expliquais que donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on encodait et on stockait donc avec quatre possibilités, donc en base 4. En fait, on faisait une transcription avec la base 2 ensuite pour tout le reste. Est-ce que si on imagine que cette technologie vient sur le vraiment long terme remplacer aujourd'hui nos disques durs et nos data centers, on pourrait en fait finalement avoir une informatique qui passe en base 4 et qui délaisse la base 2 du binaire?
Oui, alors les transcodages...
Juste pour vous rappeler deux secondes ce que c'est la base 4 et la base 2. Je représente les gens qui ne comprennent rien.
Donc en mathématiques, en fait, on peut encoder tous les nombres, ou tous les ensembles, on va dire, avec des bases, qui sont des éléments singuliers qu'on va combiner les uns aux autres pour former tout ce qu'on veut. Donc en informatique, de manière classique, on utilise le 0 et le 1, donc un système où un ensemble où il n'y a que deux représentants, le 0 et le 1, et en combinant le 0 et 1 sur des grandes longueurs,
on fait plein de choses
qu'on veut. Ouais. Pourquoi 0 et 1? Parce que tout simplement, on est parti du transistor. Alors, le transistor peut-être était un héritage. Enfin, ça s'est combiné très bien, parce que transistor, il y a deux états, 0 et 1. La nature, elle n'utilise pas le 0 et le 1. La nature utilise un système avec quatre éléments, qu'on a symbolisé par quatre lettres. En fait, c'est quatre molécules. Il en existe bien d'autres. Et quand en algorithmie, en informatique, on parle d'octal, c'est base 8. Et nous, humains, quand on écrit des nombres, on est en décimale, base 10, de 0 à 9. Et avec 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9, on est capable d'écrire tous les nombres. Donc c'est ça les bases. Effectivement, passer d'une base à l'autre, on appelle ça un transcodage. On code différemment. Et est-ce que la question initiale, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer un système où on se passe totalement du binaire pour n'être que en quaternaire? C'est envisageable. Nous,
De l'ordre de la prédiction ou de la supposition, mais
c'est envisageable. Il existe des systèmes sur puce qui traitent différemment l'information. C'est généralement des émulations. C'est envisageable. Nous, on n'adresse pas ça. Parce qu'on pense que le défi aujourd'hui est d'intégrer des systèmes existants. Donc si on vise un peu trop loin, on risque de ne pas adresser correctement le marché, et le marché refusera le produit qu'on lui proposera. On travaille tous les jours en relation avec les faiseurs de data center, donc on les écoute. Hein. On a nos technologies en interne, mais il faut qu'on leur livre un truc qui est interfaçable avec ce qu'ils ont déjà.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en pensent de votre technologie? Est-ce qu'ils vous voient plutôt comme des potentiels remplaçants, ou en fait c'est finalement vos clients? En quelque sorte.
C'est nos clients. C'est nos clients et les fournisseurs des data centers que sont les fabricants de semi-conducteurs et les fabricants de solutions de stockage et tous les intégrateurs autour sont très attentifs.
D'accord. Donc ils sont conscients de la puissance de la technologie.
Bien sûr, Western Digital, grand fabricant de stockage, est aujourd'hui en train de travailler sur le sujet. Quantum, pareil. Seagate, pareil. Hitachi, de même. Tous les GAFAM et les data centers sont à l'écoute. Ils sont vigilants et ils investissent. Microsoft investit en milliards de dollars sur le sujet.
Vous avez qui au capital, vous ?
Nous, on a principalement trois investisseurs, les plus gros en tout cas. Il y en a évidemment BPI France qui a investi, qui fait, fait pas.
Qui est le dénominateur commun de tous nos invités.
Ouais, bah, Deep Tech, hein, donc quand ils estiment que ça peut être intéressant, et là, ils ont estimé que c'était intéressant, ils investissent massivement. On a une société spécialiste de la biologie synthétique avec un comité scientifique assez fou. Avec des Américains, des Français, mais vraiment renommée internationale, qui investit. Et on a Octave Klaba. Okay.
Pour du coup revenir au défi, arriver tranquillement vers la conclusion, on sait que les data centers classiques présentent des enjeux pour la protection et la propriété de ces données. Les data centers, pas directement sur la propriété des données, même si des fois ça vaut le coup de lire les conditions générales. Est-ce que votre technologie peut poser des questions sur la protection des données personnelles, sur la propriété de ces données, etc. Ou...
Je réponds de manière courte, pas différemment d'un support de stockage actuel. La seule énorme différence, c'est que je peux vraiment mieux garantir un effacement de mes données.
Ouais. Je peux m'assurer que des choses ne seront jamais retrouvées, en quelque sorte.
En tout cas, techniquement, on peut faire beaucoup mieux que sur les supports actuels.
Ok. En détruisant le support.
En détruisant la molécule d'ADN, en la retransformant en nucléotide,
ouais.
Que d'ailleurs on peut réutiliser derrière pour faire d'autres assemblages.
On peut recycler à 100% votre techno.
Oui, absolument, et ça c'est certain. Okay. Et quand je dis recycler, alors recycler c'est un mot, je pense qu'on ne comprend pas bien ce que ça veut dire recycler. Recycler, c'est plein de choses. Hein. Mmh. Si je recycle un morceau de plastique, dépendant de la qualité de la nature du plastique, ça nécessitera parfois de le chauffer très fort, de réintroduire de la matière à un certain pourcentage, 1%, 10%, 95%. Et ça peut nécessiter beaucoup d'énergie. Quand on parle d'ADN, ça nécessite quasi rien en énergie, puisque j'introduis une enzyme, ça nécessite la production d'enzymes, ça ne sert pas à grand-chose. Et le support verre, fer ou autre, aluminium, sur acier, pardon, à la place de fer, lui, il n'est pas du tout touché par l'enzyme. Donc, je peux le réutiliser sans modification, sans aucune modification. C'est-à-dire que le recyclage, c'est le prendre à un endroit et le mettre à un autre. C'est tout. C'est pas je chauffe, je fonds, je... Voilà. C'est pour ça que j'aime pas trop...
On garde le support physique.
Le mot recyclage m'embête. Ça veut dire plein de choses.
Il est mal utilisé au quotidien.
Bah, on devrait dire, ok, recyclage, virgule, avec combien d'énergie, combien de terres rares, combien d'eau. On devrait faire ça.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.